Première partie. Après avoir fini mes études, avoir quitté à Rome l'état d'ecclésiastique, avoir embrassé celui de militaire, l'avoir quitté à Corfou, entrepris le métier d'avocat, l'avoir quitté par aversion, et après avoir vu toute mon Italie, les deux Grèces, l'Asie mineure, Constantinople et les plus belles villes de France et d'Allemagne, je suis retourné à ma patrie l'année 1753, assez instruit, plein de moi-même, étourdi, aimant le plaisir, ennemi de prévoir, parlant de tout à tort et à travers, gai, hardi, vigoureux, et me moquant, au milieu d'une bande d'amis de ma clique dont j'étais le gonfalonier, de tout ce qui me paraissait sottise, soit sacré, soit profane, appelant préjugés tout ce qui n'était pas connu aux sauvages, jouant gros jeu, trouvant égal le temps de la nuit à celui du jour, et ne respectant que l'honneur dont j'avais toujours le nom sur les lèvres, plus par hauteur que par soumission, prêt, pour garantir le mien de toute tâche, à violer toutes les lois qui auraient pu m'empêcher de violence. Je ne manquais à personne, je ne troublais pas la paix des sociétés. Je ne me mêlais ni d'affaires d'État, ni des différends des particuliers. Et voilà tout ce que j'avais de bon et ce que je croyais suffisant pour être à l'abri de tout malheur, qui, en me surprenant, aurait pu me priver d'une liberté que je supposais inviolable. Lorsque, dans certains moments, je jetais un coup d'œil sur ma conduite, je ne manquais pas de la trouver exempte de reproches, puisqu'enfin mon libertinage ne pouvait que tout au plus me rendre coupable vis-à-vis de moi-même, et aucun remords ne troublait ma conscience. Je croyais de n'avoir d'autre devoir que celui d'être honnête homme, et je m'en piquais, et n'ayant besoin pour vivre ni d'emploi, ni d'office qui aurait pu gêner pour quelques heures ma liberté, ou m'obliger à en imposer au public avec une conduite régulière et édifiante, je me félicitais et j'allais mon train. Monsieur de Brux, sénateur amplissime, avait soin de moi. Sa bourse était la mienne. Il aimait mon cœur et mon esprit. Après avoir été dans tout le cours de sa jeunesse grand libertin et esclave de toutes ses passions, un coup d'apoplexie lui fit le cruel halte-là qui, le mettant au bord du tombeau, le rappela à la raison. Retourné en état d'agir et d'espérer de parvenir à l'âge de vieillesse, moyennant le bon régime, il ne trouva autre ressource que celle de la dévotion, seule faite pour remplacer les vices avec des actes de vertu. Il s'y livra de bonne foi. Il crut de voir en moi son propre portrait, et je lui faisais pitié. Il disait que j'allais si vite qu'il était impossible que je ne me désabusasse en peu de temps, et dans cet espoir, il ne m'a jamais abandonné. Il attendait l'assouvissement de mes passions, de l'issue continuelle, mais il n'a pas assez vécu pour voir ses vœux exaucés. Il me donnait toujours des excellentes leçons de morale, que j'écoutais avec plaisir et avec admiration, sans jamais les éviter. C'était tout ce qu'il exigeait de moi. Il me donnait de bons conseils et de l'argent, mais ce dont il ne me rendait pas compte était qu'il priait incessamment Dieu de me faire connaître toute l'irrégularité de ma conduite. Dans le mois de mars de l'année 1755, j'ai pris un appartement dans la maison d'une veuve sur le quai qu'on appelle à Venise les Fondamenti Nove, les nouveaux quais, en assurant M. de Béer que ce nouveau séjour était nécessaire à ma santé, puisque l'été allait venir et dans les grandes chaleurs qu'on ressentait dans l'intérieur de la ville, j'avais besoin d'habiter dans un quartier exposé au grand air et à la fraîcheur du vent du nord. Ce seigneur, qui trouvait bon tout ce que je désirais, approuva mon idée, assez content de ce que je lui promettais d'aller dîner chez lui tous les jours. La vraie raison qui me faisait quitter son palais était celle de devenir voisin d'une fille que j'aimais. Le détail de cette intrigue n'a rien de commun avec cette histoire, si je l'épargne au lecteur. Le 25 du mois de juillet, un quart d'heure avant le lever du soleil, j'ai quitté l'Herbaria pour aller me coucher. Cette Herbaria est un endroit sur un quai du Grand Canal, attenant au Pont de Rialto, qui s'appelle ainsi parce que c'est le marché aux herbes, aux fruits et aux fleurs. Les hommes et les femmes galantes qui ont passé la nuit dans les plaisirs de la table ou dans les fureurs du jeu ont l'habitude d'aller y faire un tour de promenade avant que d'aller se coucher. Cette promenade démontre qu'une nation peut facilement changer de caractère. Les Vénitiens de jadis, mystérieux en politique et en galanterie, sont effacés par les modernes dont le goût prédominant est celui de ne faire plus aucun mystère de rien. Ce lieu offre un beau coup d'œil, mais il n'en est que le prétexte. On va dans l'Herbaria plus pour se faire voir que pour voir, et les femmes l'aiment plus que les hommes. Elles veulent que le monde sache qu'elles ne se gênent pas. La coquetterie y est exclue à cause du délabrement de la parure. Le jour commence alors, mais personne n'a l'air d'en convenir. C'est la fin du précédent. Chaque homme, chaque femme doit voir dans l'autre les marques du désordre. Les hommes doivent afficher l'ennui d'une complaisance trop usée, et les femmes doivent faire parade des débris d'une vieille toilette qu'on n'a pas respectée. Tout le monde doit avoir l'air rendu et montrer le besoin d'aller se mettre au lit. Je ne manquais jamais à cette promenade, observateur de ces lois, le plus souvent sans aucune raison. À l'heure qu'il était, tout devait dormir chez moi. Ma surprise ne fut pas petite en voyant la porte de la maison ouverte. Elle augmenta lorsque j'ai vu la serrure abattue. Je monte et je trouve toute la famille debout et mon hôtesse triste à cause d'une visite extraordinaire qui avait mis sans dessus-dessous toute la maison. Elle me dit, tout effarée, qu'une heure avant le jour, Messer Grande, c'est le nom d'emploi du chef des archers de la République, avait abattu la porte de la rue, était monté avec son escouade et avait fait dans toute la maison la perquisition plus exacte, sans excepter mon appartement dont il avait visité tous les recoins. Après toutes ces vaines recherches, il lui avait dit que le matin du jour précédent, on avait débarqué chez elle une malle et qu'il savait que cette malle était pleine de sel. Elle la lui avait fait alors voir toute remplie, et non pas de sel, mais d'habits du comte Securo, ami de la maison, qu'il avait envoyé de la campagne. Monsieur Grande, après avoir vu cela, s'en était allé. J'ai assuré mon hôtesse de lui faire obtenir une éclatante satisfaction, et sans la moindre inquiétude, je me suis mis au lit. Je me suis levé à midi pour aller dîner chez Monsieur de Brr, auquel j'ai exposé le fait et représenté la nécessité de procurer à cette femme une satisfaction proportionnée, puisque les lois garantissaient la tranquillité de toute maison exempte de crime. Je lui ai dit que le mal avisé ministre devait pour le moins perdre sa charge. Ce sage vieillard, après m'avoir écouté très attentivement, me dit qu'il me répondrait après dîner. Nous passâmes 2 heures fort gaiement avec 2 autres nobles, aussi dévots et pieux que lui, quoique moins âgés, tous les deux mes tendres amis et pensant comme lui sur mon compte. L'étroite liaison de ces 3 respectables personnages avec moi était le sujet de l'étonnement de tous ceux qui l'observaient. On en parlait comme d'un rare phénomène dont la cause devait être mystérieuse, car on ne pouvait pas comprendre comment le caractère des 3 put convenir avec le mien, comment le mien put se conformer au leur, eux, toute éternité et vertu, et moi, tout monde et vice. Les méchants inventaient des raisons infâmes. La chose, disait-on, ne pouvait pas être naturelle. Et la calomnie s'en mêlait. Il y avait sûrement là-dessous un mystère, il fallait le dévoiler. J'ai su 20 ans après qu'on nous faisait suivre et que les plus fins des espions du tribunal des inquisiteurs d'État furent chargés de découvrir la raison occulte de cette union invraisemblable et monstrueuse. Pour moi, innocent comme je croyais d'être, je ne me défiais de personne et j'allais mon train de la meilleure foi du monde. Monsieur de Béhar, d'abord après dîner, me dit d'un grand sang-froid et sans autre témoin que les deux nobles qu'au lieu de penser à tirer vengeance de l'affront fait à mon hôtesse, je devais penser à me mettre en lieu de sûreté. Il me dit que la malle remplie de sel était une contrebande forgée par messieurs Landais qui n'en voulait qu'à moi. Qu'il était vrai qu'il ne parlait que par conjecture, mais qu'ayant eu siège dans le tribunal, il reconnaissait le style de capture qu'il ordonnait. Il me dit qu'en conséquence, il avait fait armer à 4 rames sa gondole, dans laquelle je devais aller sur le champ à Fucine, où je prendrais la poste pour aller à Florence et pour y rester jusqu'à ce qu'il m'eût écrit que je pourrais retourner. À la fin de son sage discours, il me donna un rouleau qui contenait 100 sequins. Plein de respect et de reconnaissance, je lui ai répondu que je lui demandais 1000 pardons si je ne me rendais pas à son conseil. Je lui ai dit qu'en ne me sentant pas coupable, je ne pouvais pas craindre la justice du tribunal. Il me dit qu'un tribunal comme celui-là pouvait en savoir plus que moi et reconnaître en moi des crimes dont je pouvais me croire innocent, et que ce qu'il y avait pour moi de plus sûr en attendant était d'accepter les 100 sequins et de m'en aller. Je lui ai alors dit que l'homme ne pouvait pas être criminel sans le savoir, et que j'aurais commis une faute contre moi-même si, en fuyant, j'eusse pu donner un indice aux inquisiteurs d'État de quelques remords de conscience qui m'auraient pu que les confirmer dans leur propre idée. Je lui ai ajouté que, le silence étant l'âme de ce grand magistrat, il serait impossible de pénétrer après mon départ si j'eusse eu raison de me sauver et que je ne pouvais prendre ce parti qu'en donnant à ma patrie un éternel adieu, puisque rien ne m'aurait assuré que j'aurais pu y vivre à mon retour, libre de crainte et de la même qui m'aurait induit à partir dans ce moment-là. En disant cela, je l'ai embrassé. Je n'ai pas voulu l'argent offert et je l'ai supplié de ne pas vouloir, avec son inquiétude, troubler la paix de mon âme. « Fais-moi du moins le plaisir, dit-il, de ne pas aller dormir cette nuit dans ton cassin. » Je me suis dispensé de cela aussi et j'ai eu tort. Cette prière me venait de la bonté même. Et c'est par une raison des plus frivoles que je n'y ai pas fait attention. Ce jour-là était la fête de Saint-Jacques, dont je porte le nom. Et le lendemain, on chômait Sainte-Anne, nom de la fille que j'aimais à cette époque-là. J'avais écrit que nous aurions déjeuné ensemble à Castello. Le même jour, le tailleur m'avait apporté un habit de taffetas dont la bordure en dentelle d'argent était de l'invention de ma belle. Je n'ai pas cru de devoir sacrifier ce rendez-vous à une prudente précaution et à la tendresse de mon bienfaiteur. Je n'étais cependant pas méchant ni ingrat, mais étourdi et sensible au plaisir que je me figurais d'avance toujours plus grand. Un engagement pareil à cet âge-là est quelque chose de très important. Amare et sapere vix deo conceditur est une sentence dont je n'ai reconnu la vérité que dernièrement à Vienne. Lorsque j'ai pris congé de M. de Breux, il me dit en riant que nous ne nous reverrions peut-être plus. Ces paroles m'étonnèrent, mais ce fut lui-même qui, craignant de m'avoir trop dit, me fit sortir de mon étonnement en me disant, en vrai stoïcien comme il était, « Va-t'en, va-t'en, mon fils, sequere deum, fata viam inveniunt. » Le fait que ce fut la dernière fois que je l'ai vu, quoiqu'il ait survécu 10 ans à ma fuite, j'ai embrassé mes 2 autres amis qui étaient là comme stupéfaits et obligés à me lever le lendemain de bonne heure, je suis rentré chez moi à 1h de nuit et je me suis d'abord couché. À la pointe du jour, 26 juillet 1755, Messer Grandet entra dans ma chambre. Me réveiller, le voir et entendre son interrogation fut l'affaire d'un moment. Il prononça mon nom en me demandant s'il se trompait, car c'était la première fois qu'il me voyait. Je lui ai répondu qu'il ne se trompait pas. « Donnez-moi, dit-il, tout ce que vous avez décrit, soit de vous, soit d'autres. Habillez-vous d'abord et venez avec moi. » Je lui ai demandé de qui il tenait cette commission, et il me répondit qu'il obéissait aux ordres du tribunal. J'ai laissé alors qu'il prenne tous mes papiers, qu'il fit mettre dans un sac par 2 de ses gens, et sans plus ouvrir la bouche, je me suis habillé. Ce qui est rare est que je me suis rasé, fait peigner, mis une chemise à dentelle, et mon galant habit, non pas comme un homme qui sait d'aller en prison, mais comme on va aux noces ou au bal. Je fais tout cela machinalement, car le lendemain, en y pensant, je ne me suis pas trouvé en état de rendre compte à moi-même comment cela était arrivé. Messer Grandet, sans jamais me perdre de vue, me laissa faire toute ma toilette. Quand il me vit prêt, il me dit que je devais avoir des manuscrits reliés en livres et que je devais les lui consigner. Ce fut pour lors que j'ai cru de pouvoir pénétrer quelque chose. Je lui ai indiqué un tas de livres tous imprimés au-dessus desquels il y avait 4 des manuscrits. Il les prit, et avec eux tous les imprimés qu'il a vus sur ma table de nuit. C'était l'Arioste, Pétrarque, Horace, un tome des opuscules de Plutarque et quelques brochures françaises. Les manuscrits contenaient des impostures de magie, clavicule de Salomon, talismans, cabales, zécorben, picatrix, parfums et conjurations pour avoir des colloques avec les démons de toutes les classes. La curiosité m'avait fait possesseur de toutes ces drogues-là, dont je ne faisais aucun cas. Mais ceux qui savaient que je les avais ne croyaient pas cela, et je les laissais croire tout ce qu'ils voulaient, n'étant pas même fâché qu'on me crût un peu sorcier. 2 mois avant ce fait, un Vénitien, dont l'ancien métier avait été de metteur en œuvre, fit connaissance avec moi en me proposant l'achat d'une jolie bague de brillants à bon marché, et étant venu chez moi, il vit mes livres de magie. 2 ou 3 semaines après, il vient me dire que quelqu'un qui ne voulait pas être nommé m'en donnerait 1000 ducats si je voulais les vendre, mais qu'on voulait auparavant les voir. Cette proposition m'a plu, et je lui ai répondu que je n'aurais pas de difficulté à les lui confier pour 24 heures. 15 jours après, il me demanda les livres, qu'il me rendit le lendemain en me disant que la personne ne les trouvait pas légitimes. 8 jours après cela, je fus arrêté, et ces mêmes livres m'ayant été demandés par Messer Grandet, j'ai fait là-dessus des conjectures sans cependant rien décider. Ce que j'ai su après fut que ce Vénitien était espion du tribunal. En sortant de ma chambre, je fus surpris de voir 30 à 40 archers. On m'a fait l'honneur de les croire nécessaires pour s'assurer de ma personne, tandis que deux auraient été, assez selon l'axiome, ne Hercules quidem contra duos. Il est singulier qu'à Londres, où tout le monde est brave, on n'emploie qu'un seul homme pour en arrêter un autre, et qu'à Venise, ma patrie, où généralement on est poltron, on en emploie 30. Je crois que cela vient de ce que le poltron, obligé à assaillir, a toujours plus de peur que l'assailli, et l'assailli peut par la même raison devenir brave. Et effectivement, on voit souvent à Venise des gens arrêtés qui se sont défendus et qui enfin ne se rendirent qu'accablés par le nombre. Messer Grande me fit entrer dans une gondole, où il se plaça près de moi, n'ayant gardé que 4 hommes et ayant renvoyé tout le reste. La gondole arriva chez lui. Il me fit entrer dans une chambre où il me laissa seul après m'avoir offert du café que j'ai refusé. J'ai passé presque 4 heures, toujours opprimé par un sommeil assez tranquille, interrompu à chaque quart d'heure par la nécessité de lâcher de l'eau, phénomène fort extraordinaire car la chaleur était excessive. Je n'avais pas soupé, je n'avais pris dans la journée précédente qu'une glace à l'entrée de la nuit. J'ai néanmoins rempli d'urine 2 grands pots de chambre. La surprise causée par l'oppression était pour moi un grand narcotique, et j'en avais fait autrefois l'expérience, mais je ne l'avais pas cru diurétique. J'abandonne cela aux physiciens. Il y a cependant apparence que dans le même temps que mon esprit effrayé devait donner des marques de défaillance par l'assouvissement de sa faculté pensante, mon corps aussi, comme s'il se fût trouvé dans un pressoir, devait exprimer une bonne partie des fluides qui, avec une circulation continuelle, donnent action à notre faculté de penser. Et voilà comment une effrayante surprise peut parvenir à causer une mort subite car elle peut arracher l'âme au sang. Au son de la cloche de Terza, 3 heures, Messer Grande entra et me dit qu'il avait l'ordre de me mettre sous les plombs. Je l'ai suivi. Nous entrâmes dans une autre gondole et après un détour par des petits canaux, nous entrâmes dans le grand et nous descendîmes au quai des prisons. Et après avoir monté quelques escaliers, nous passâmes un pont éminent et enfermé qui sert de communication des mêmes prisons avec le palais ducal par-dessus le canal qu'on appelle Rio Palazzo. Au-delà de ce pont, nous passâmes une galerie et entrâmes dans une seconde chambre où il me présenta un homme vêtu en robe de patricien qui, après m'avoir regardé, lui dit « E quello, mettelelo in deposito !» Ce personnage était le secrétaire de messieurs les inquisiteurs, il circospetto Domenico Cavalli, qui apparemment eut honte de parler vénitien en ma présence, car il prononça mon arrêt en bonne langue toscane. Messer Grande alors me consigna au gardien des plombs, qui, suivi de 2 hommes, me fit monter 2 petits escaliers, enfiler une galerie, puis une autre séparée par porte à clé, et puis une autre encore, qui avait au bout une porte après laquelle je me suis vu dans un grand, vilain et sale galta, long 6 toises, large 2, éclairé par une éminente lucarne. J'ai pris ce galta pour ma prison, mais je me suis trompé. Il empoigna une grosse clé, il ouvrit une grosse porte doublée de fer haut de 3 pieds et demi, qui dans son milieu avait un trou rond de 8 pouces de diamètre, et m'ordonna d'entrer. Tandis qu'il ouvrait cette porte, je regardais attentivement une machine de fer enclouée dans la forte cloison, qui avait la forme d'un fer à cheval, 1 pouce d'épaisseur et un diamètre de 5 l'un à l'autre de ses bouts parallèles. Je pensais à ce que cela pouvait être, lorsque le gardien me dit en souriant « Je vois, monsieur, que vous voudriez deviner à quoi cette machine sert, et je peux vous le dire. Lorsque leurs excellences ordonnent qu'on étrangle quelqu'un, on le fait asseoir sur un tabouret, le dos tourné contre ce collier, et on lui place la tête de façon qu'il embrasse la moitié de son cou, et une masse de soie qui lui environne l'autre moitié passe avec les deux bouts par ce trou qui aboutit à un moulinet auquel on les recommande, et un homme le tourne jusqu'à ce que le patient ait rendu l'âme à notre Seigneur, car le confesseur ne le quitte, Dieu soit loué, que lorsqu'il est mort. » « C'est fort ingénieux, lui répondis-je, et je pense, monsieur, que c'est vous-même qui avez l'honneur de tourner le moulinet. » Il ne me répondit pas. Ayant la taille de 5 pieds 9 pouces, je me suis bien courbé pour entrer, et il m'enferma. Il me demanda par la grille ce que je voulais manger, et je lui ai répondu que je n'y avais pas encore pensé. Il s'en alla, refermant toutes ses portes. Étonné, j'ai appuyé mes coudes sur la hauteur d'appui de la grille. Elle avait 2 pieds en tous sens, croisés par 6 barreaux de fer d'un pouce de diamètre, qui formaient 16 trous carrés de 5 pouces. Elle aurait rendu le cachot assez clair si une poutre quadrangulaire, maîtresse d'œuvre du comble, qui avait 1,5 pied de large et qui entrait dans le mur au-dessous de la lucarne que j'avais obliquement vis-à-vis, n'eût pas intercepté la lumière qui entrait dans le galetas. J'ai fait le tour de mon affreuse prison, qui n'avait que 5,5 pieds de hauteur, en tenant ma tête inclinée. J'ai trouvé, quasi à tâtons, qu'elle formait les 3/4 d'un carré de 2 toises. Le quart contigu à celui qui lui manquait était positivement une alcôve, capable de contenir un lit. Mais je n'ai trouvé ni lit, ni siège, ni table, ni meuble d'aucune espèce, excepté un baquet pour les besoins naturels, et une haie assurée au mur, large 1 pied et élevée du plancher 4. J'ai placé là mon beau manteau de soie et mon joli habit mal étrenné, avec mon chapeau bordé d'un point d'Espagne et d'un plumet blanc. La chaleur était extrême. Triste et rêveur, la nature m'a porté au seul lieu où je pouvais me reposer sur mes coudes. Je ne pouvais pas voir la lucarne, mais je voyais la lumière qui éclairait le galetas et des rats gros comme des lapins qui se promenaient. Ces hideux animaux dont j'abhorrais la vue venaient jusque sous ma grille, sans nulle marque de frayeur. J'ai vite enfermé le trou de la porte avec un volet intérieur. Leur visite m'aurait glacé le sang. Je suis tombé dans la rêverie la plus profonde, mes bras toujours croisés sur la hauteur d'appui, où j'ai passé 8 heures immobile dans le silence et sans jamais bouger. J'ai entendu sonner 21 heures et j'ai commencé à m'inquiéter de ce que je ne voyais paraître personne, de ce qu'on ne venait pas voir si je voulais manger, de ce qu'on ne me portait pas un lit, une chaise ou au moins du pain et de l'eau. Je n'avais pas d'appétit, mais il me semblait qu'on ne devait pas le savoir. Jamais de ma vie je n'avais eu la bouche si amère. Je me tenais cependant pour sûr que vers la fin du jour, quelqu'un paraîtrait. Mais lorsque j'ai entendu sonner les 24 heures, je suis devenu comme un forcené, hurlant, frappant des pieds, pestant et accompagnant de hauts cris tout le vain tapage que mon étrange situation m'excitait à faire. Après plus d'une heure de ce furieux exercice, ne voyant personne, n'entendant pas moi-même le moindre indice qui m'aurait fait imaginer que quelqu'un pût avoir entendu mes fureurs, enveloppé de ténèbres, j'ai fermé la grille, craignant que les rats ne sautassent dans le cachot. Je me suis jeté étendu sur le plancher avec mes cheveux enveloppés dans un mouchoir. Un pareil impitoyable abandon ne me paraissait pas vraisemblable, quand même on eût décidé de me faire mourir. L'examen de ce que je pouvais avoir fait pour mériter un traitement si cruel ne pouvait durer qu'un moment, car je ne trouvais pas matière pour m'arrêter. En qualité de grand libertin, de hardi parleur et d'homme qui ne pensait qu'à jouir de la vie, je ne pouvais pas me trouver coupable. Mais en me voyant malgré cela traité comme tel, j'épargne au lecteur tout le détail de ce que la rage, la fureur, le désespoir m'a fait dire et penser contre le despotisme qui m'opprimait. La noire colère, cependant, et le chagrin qui me dévorait, et le dur plancher sur lequel j'étais, ne m'empêchèrent pas de m'endormir. Ma nature avait besoin du sommeil, et lorsque l'individu qu'elle anime est jeune et sain, elle sait se procurer ce qu'il lui faut sans avoir besoin de son consentement. La cloche de minuit m'a éveillé. Affreux réveil, lorsqu'il fait regretter le rien ou les illusions du sommeil. Je ne pouvais pas croire d'avoir passé 3 heures sans avoir senti aucun mal. Sans bouger, couché comme j'étais sur mon côté gauche, j'ai allongé le bras droit pour prendre mon mouchoir que la réminiscence me rendait sûr d'avoir placé là. En allant à tâtons avec ma main, Dieu, quelle surprise, lorsque j'en trouve une autre froide comme glace. L'effroi m'a électrisé depuis la tête jusqu'aux pieds et mes cheveux se hérissèrent. Jamais je n'ai eu dans toute ma vie l'âme saisie d'une telle frayeur et je ne m'en suis jamais cru susceptible. J'ai passé certainement 3 ou 4 minutes non seulement immobile mais incapable de penser. Rendu à moi-même, je me suis fait la grâce de croire que la main que j'avais touchée n'était qu'un objet de l'imagination. Dans cette ferme supposition, j'allonge de nouveau le bras au même endroit et je trouve la même main que, jetant un cri perçant et transi d'horreur, je serre et je relâche en retirant mon bras. Je frémis. Mais, devenu maître de mon raisonnement, je décide que pendant que je dormais, on avait mis près de moi un cadavre. Car j'étais sûr que lorsque je me suis couché sur le plancher, il n'y avait rien. J'imagine d'abord le corps de quelque innocent malheureux, et peut-être mon ami qu'on avait étranglé et qu'on avait ainsi placé près de moi, pour que je trouvasse à mon réveil, devant mes yeux, l'exemple du sort qu'on m'avait destiné. Cette pensée me rend féroce. Je porte pour la 3e fois mon bras à la main. Je la saisis, je la serre et je veux dans le même instant me lever pour tirer à moi ce cadavre et me rendre certain de toute l'atrocité de ce fait. Mais voulant m'appuyer sur mon coude gauche, la même main froide que je tenais serrée devient vive, se retire, et je me sens dans l'instant, avec ma grande surprise, convaincu que je le tenais dans ma main droite, autre main que ma main gauche, qui, percluse et engourdie, avait perdu mouvement, sentiment et chaleur, effet du lit tendre, flexible et douillet, sur lequel mon pauvre individu reposait. Cette aventure, quoique comique, ne m'a pas égayé. Elle m'a donné matière aux réflexions les plus noires. Je me suis aperçu que j'étais dans un endroit où, si le faux paraissait vrai, les réalités devaient paraître des songes, où l'entendement devait perdre la moitié de ses privilèges, où la fantaisie échauffée devait rendre la raison victime ou de l'espérance chimérique, ou de l'affreux désespoir. Je me suis d'abord mis sur mes gardes pour tout ce qui concernait cet article, et j'ai, pour la première fois de ma vie, à l'âge de 30 ans, appelé à mon secours la philosophie dont j'avais tous les germes dans l'âme et dont il ne m'était pas encore arrivé l'occasion d'en faire cas ni usage. Je crois que la plus grande partie des hommes meurent sans avoir jamais pensé. Je me suis tenu sur mon séant jusqu'au frappé de 8 heures. Les crépuscules du nouveau jour paraissaient. Le soleil devait se lever à 9h15. Il me tardait de voir ce jour. Un pressentiment intérieur que je tenais pour infaillible m'assurait qu'on me renverrait chez moi d'abord. Je brûlais des désirs de vengeance que je ne dissimulais pas. Je me voyais à la tête du peuple pour pulvériser le gouvernement et je ne pouvais pas me contenter d'ordonner à des bourreaux le carnage de mes oppresseurs, mais c'était moi-même qui devais en faire le massacre. Tel est l'homme. Et il ne se doute pas que ce qui tient ce langage dans lui n'est pas la raison, mais sa plus grande ennemie, la colère. J'ai attendu moins de ce que je me sentais disposé à attendre, et voilà un premier motif de calme des fureurs. À 8h30, le profond silence de ces lieux, enfer de l'humanité vivante, fut rompu par le glapissement des verrous au vestibule des corridors qu'il fallait passer pour arriver à mon cachot. J'ai vu le gardien devant ma grille, qui me demanda si j'avais eu le temps de penser à ce que je voulais manger. Je lui ai répondu, sans relever sa raillerie, que je voulais une soupe au riz, du bouilli, du rôti, des fruits, du pain, du vin et de l'eau. J'ai vu ce butor étonné de ne pas entendre les plaintes auxquelles il s'attendait. Après s'être arrêté une minute, voyant que je ne lui disais rien, et sa dignité ne lui permettant pas de me demander si je voulais autre chose, il s'en alla. Mais un quart d'heure après, il reparut et me dit qu'il s'étonnait que je ne voulusse pas avoir un lit et ce qu'il me fallait, puisque si je me flattais de n'avoir été mis là que pour une nuit, je me trompais. Je lui ai répondu qu'il me ferait plaisir en me portant ce qu'il me croyait nécessaire. « Où faut-il, me dit-il, que j'aille le chercher ?» Bon, je lui ai dit d'aller chez moi et de me porter tout. Il me donna pour l'or un morceau de papier et un crayon. J'ai demandé par écrit lit, chemise, bas, robe de chambre, bonnet, peigne, pantoufle, fauteuil, table, miroir, rasoir et nommément les livres que Messer Grandet avait trouvés sur la tablette près de mon lit. Outre cela, papier, plume, à la lecture de ces articles que je lui ai fait lire, car il ne savait pas lire, il me dit de rayer papier, écritoire, miroir et rasoir, car tout cela était défendu par institution, et il me demanda de l'argent pour acheter le dîner que je lui avais ordonné. Je lui ai donné un sequin de 3 dont j'étais possesseur. Je l'ai entendu partir une demi-heure après. Dans cette demi-heure, comme j'ai su dans la suite, il avait servi 7 autres prisonniers qui étaient détenus là, chacun séparé, et dans l'impossibilité de tout commerce réciproque et d'avoir connaissance ni du nom ni de la qualité de ceux que le même malheur accablait. Vers midi, cet homme parut dans le galetas, suivi de 5 archers destinés au service des prisonniers d'État. C'est le titre dont on nous honorait. Il ouvrit mon cachot pour introduire les meubles que j'avais ordonnés et mon dîner. On fit le lit dans l'alcôve et on mit mon dîner sur la petite table. Il me donna une cuillère d'ivoire qu'il avait achetée de mon argent, en me disant que Courchaux et Fourchette étaient défendus comme tout outil de métal, et qu'il ne me laissait mes boucles que parce qu'il voyait qu'elles étaient de pierre. Il me dit de lui ordonner ce que je voulais manger dans le jour suivant, parce que la seule heure à laquelle il pouvait monter là-haut était à la pointe du jour. Il finit par me dire que l'illustrissimo signor secretario avait effacé de ma note tous les livres que j'avais ordonnés, en lui disant qu'il m'en enverra des convenables à mon état actuel. Je lui ai ordonné de le remercier de ma part de ce qu'il ne m'avait fait mettre en compagnie de personne. Il me répondit qu'il fera ma commission, mais que j'avais tort de me moquer, puisque je devais sentir qu'on ne m'avait mis tout seul que pour me rendre la prison plus pénible. Il avait raison, mais je m'en suis bien aperçu quelques jours après. J'ai reconnu qu'un homme mis dans l'impossibilité de s'occuper et enfermé tout seul dans un endroit quasi obscur, où il ne peut appeler personne et où il ne voit qu'une fois en 24 heures celui qui lui porte sa nourriture, doit se trouver dans un vrai enfer. La compagnie d'un assassin, d'un fou, d'un malade puant, d'un ours, d'un tigre est préférable à une solitude de cette espèce. Elle désespère, mais on ne peut le savoir qu'en en ayant fait l'expérience. Après le départ du gardien, pour voir un peu de jour et pour ne pas manger à l'obscur, car toute espèce de lumière artificielle était défendue, j'ai placé ma table près du trou par où entrait la petite lueur qui venait de la lucarne. J'étais à jeun précisément depuis 45 heures, mais je n'ai pu avaler que du riz. J'ai passé la journée sans fureur sur mon fauteuil, ne souffrant que l'ennui, désirant le lendemain et m'accommodant déjà l'esprit à la lecture prétendue convenable qu'on m'avait annoncée. J'ai passé la nuit sans dormir au bruit que les rats bondissants faisaient dans le galetas, et en compagnie de l'horloge de San Marco qui me faisait frapper dans mon cachot. Une espèce de tourban dont je trouverais dans mes lecteurs peu de juges me faisait une peine insoutenable. C'était 1 million de puces qui s'en donnaient à cœur joie sur tout mon corps, avide de mon sang et de ma peau qu'elles perçaient avec un acharnement dont je n'avais point d'idée. Ces insectes me donnaient des convulsions, me causaient des contractions spasmodiques dans les nerfs. Ils m'empoisonnaient le sang. Le lendemain, à la pointe du jour, le gardien parut, fit faire mon lit, balayer, nettoyer. Lorsqu'un de ses archers me présenta de l'eau pour me laver les mains, le gardien, qui vit que je voulais sortir, m'avertit que cela ne m'était pas permis. J'ai vu 2 livres et je me suis abstenu de les ouvrir pour me garantir d'un premier mouvement, peut-être de dédain, qui n'aurait pas manqué de référer. Après m'avoir laissé ma mangeaille et m'avoir coupé 2 citrons, il partit. Ayant à peine mangé ma soupe chaude, je mis mes livres contre la lumière du trou et j'ai vu qu'il ne me serait pas difficile de lire. Un de ces livres avait pour titre « La cité mystique de Sœur Marie de Jésus appelée d'Agreda ». Je n'en avais nulle idée. Le second était d'un jésuite dont j'ai oublié le nom. Il établissait une nouvelle adoration particulière directe au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. De toutes les parties humaines de notre divin médiateur, c'était celle-là que, selon cet auteur, on devait particulièrement adorer. Idée singulière d'un fou ignorant dont je n'ai pas pu souffrir la lecture, car le cœur ne me paraissait pas un viscère plus respectable du poumon. La cité mystique m'intéressa un peu. J'ai lu tout ce que l'extravagance d'une imagination échauffée d'une vierge extrêmement dévote, espagnole, mélancolique, enfermée dans un couvent, ayant des directeurs de conscience ignorants et flatteurs, pouvait enfanter. Toutes ces visions chimériques et monstrueuses étaient décorées du nom de révélation. Amoureuse et amie très intime de la Sainte Vierge, elle avait reçu ordre de Dieu même d'écrire la vie de sa divine mère. Le Saint-Esprit lui avait fourni les instructions qui lui étaient nécessaires et que personne ne pouvait avoir lu nulle part. Elle commençait l'histoire, non pas du moment de sa naissance, mais de celui de sa très immaculée conception dans le ventre de Sainte Anne. Cette sœur, Marie d'Agreda, était supérieure d'un couvent des Cordelières fondé par elle-même chez elle. Après avoir narré en détail tout ce que la Mère de Dieu fit dans les 9 mois avant sa naissance, elle dit qu'à l'âge de 3 ans, elle balayait sa maison, aidée par 900 domestiques, tous anges que Dieu lui avait destinés et commandés en personne par leur prince archange Michel, qui allait et venait d'elle à Dieu et de Dieu à elle pour leurs réciproques ambassades. Ce qui frappe dans ce livre est l'assurance où le lecteur judicieux doit se trouver qu'il n'y a rien dans tout l'ouvrage que l'auteur, plus que fanatique, puisse avoir cru d'avoir inventé. L'invention ne peut pas aller jusque-là. Tout est dit de bonne foi. Ce sont des visions d'une cervelle sublimée qui, sans aucune ombre d'orgueil, ivre de Dieu, croit de ne révéler autre chose que ce que le Saint-Esprit lui dicte. Ce livre était imprimé avec la permission de l'Inquisition. Je ne pouvais revenir de mon étonnement. Bien loin d'augmenter ou d'exciter dans mon esprit une ferveur, un zèle de religion, il me tenta de traiter de fabuleux tout ce que nous avons de mystique et de dogmatique aussi. Le caractère de ce livre porte des conséquences. Un lecteur d'un esprit plus susceptible que le mien et plus attaché au merveilleux risque en le lisant de devenir visionnaire et graphomane comme cette Vierge. La nécessité de m'occuper à quelque chose m'a fait passer une semaine sur ce chef-d'œuvre d'un esprit exalté qui forge. Je n'en ai jamais rien dit au sceau gardien, mais je n'en pouvais plus. D'abord que je m'endormais, je m'apercevais de la peste que ce livre avait communiquée à mon esprit affaibli par la mélancolie et par la mauvaise nourriture. Mes rêves extravagants me faisaient rire lorsque, éveillé, je les récapitulais, puisqu'il me prenait envie de les écrire, et si j'eusse eu le nécessaire, j'aurais peut-être produit là-haut un ouvrage encore plus fou que celui que M. de Cavalli m'avait envoyé. Depuis ce temps-là, j'ai vu combien se trompe ce qui attribue à l'esprit de l'homme une certaine force. Elle n'est que relative. Et l'homme qui s'étudierait bien ne trouverait en lui-même que faiblesse. J'ai vu que, quoiqu'il arrive rarement que l'homme devienne fou, il est pourtant vrai que la chose était facile. Notre jugement est comme la poudre à canon qui, quoi qu'il soit très facile de l'enflammer, elle ne s'enflamme cependant jamais à moins qu'on ne lui mette le feu, ou comme un verre à boire qui ne se cassera jamais à moins qu'on ne le casse. Le livre de cet Espagnol est ce qu'il faut pour faire devenir fou un homme, mais il faut lui donner ce poison lorsqu'il est en prison, seul et sans nul moyen de s'occuper. Dans l'année 1767, en allant de Pampelune à Madrid, mon voiturier s'arrêta pour dîner dans une ville de la vieille Castille, dont, considérant la tristesse et la laideur, il me vint envie de savoir le nom. Oh ! Que j'ai ri quand on m'a dit que c'était Agreda ! C'était là où la tête de cette sainte folle était accouché du chef-d'œuvre que si je n'eusse jamais eu affaire avec M. de Cavalli, je n'aurais jamais lu. Un vieux prêtre me montra le lieu où Sœur Marie avait écrit, dont le père, la mère et la sœur avaient tous été saints. Il me dit, et c'était vrai, que l'Espagne sollicitait à Rome sa canonisation avec celle du bienheureux Palafox. Ce fut peut-être cette cité mystique qui donna le talent au père Malagrida d'écrire la vie de Sainte-Anne, que le Saint-Esprit lui dicta aussi. Mais le pauvre jésuite dut en souffrir le martyre. Raison plus forte pour lui procurer la canonisation lorsque la compagnie ressuscitera et retournera dans son ancienne splendeur. Au bout de 9 à 10 jours, je n'ai plus eu d'argent. Le gardien me demanda où il doit aller en prendre, et je lui ai répondu laconiquement « Nulle part ». Ce qui déplaisait à cet homme avare et bavard était mon silence. Le lendemain, il me dit que le tribunal m'assignait 50 sous par jour, dont il devait être le caissier, et dont il me rendrait compte tous les mois et ferait l'usage que je lui en donnerais de mes épargnes. Je lui ai dit de me porter 2 fois par semaine la Gazette de Leyde, et il me répondit que ce n'était pas permis. Ces 50 sous par jour étaient plus qu'il ne me fallait puisque je ne pouvais plus manger. L'extrême chaleur et la diète m'avaient rendu languissant. C'était le temps de la canicule et la force des rayons du soleil qui dardait les plombs me tenait comme dans une étuve. La sueur qui sortait de mon corps ruisselait sur le plancher à droite et à gauche de mon fauteuil, où il me semblait de me soulager en me tenant tout nu. Au bout de 15 jours que je n'allais à la selle, j'y fus et j'ai cru de mourir des douleurs dont je n'avais pas d'idée. Ce fut la maladie des hémorroïdes internes qui me prit alors et dont je ne suis plus guéri. Ce souvenir, qui me rappelle de temps en temps la cause, ne vaut rien pour me la faire chérir. Si la physique ne nous donne pas ses bons remèdes pour guérir des maux, elle nous fournit du moins des moyens sûrs d'en acquérir. On fait grand cas en Russie de cette maladie-là, jusqu'à faire compliment à ceux qui en sont attaqués. Des violents frissons me firent connaître dans le même jour que j'étais assailli par la fièvre. J'ai gardé le lit et le lendemain je n'ai rien dit. Mais le surlendemain que le gardien trouva pour la seconde fois à mon dîner tel qu'il me l'avait porté, me demanda comment je me portais et je lui ai répondu que ça allait fort bien. Il me parla alors avec emphase des avantages que ces prisonniers avaient lorsqu'ils étaient malades, que le tribunal leur fournissait gratis médecins, médecine et chirurgiens, et que j'avais tort de ne pas lui donner mes ordres, puisqu'il était sûr que j'étais malade. Je ne lui ai rien répondu, mais malgré cela, il retourna 3 heures après, sans aucun de ses satellites, une bougie à la main, suivi d'une figure grave et imposante qui me fit d'abord connaître le médecin. J'étais dans l'ardeur de la fièvre et c'était le 3e jour qu'elle me brûlait le sang. Il me fit des interrogations et je ne lui ai répondu autre chose, sinon qu'au confesseur et au médecin. Je ne parlais que tête à tête. Il dit alors au gardien de sortir, et le gardien ne l'ayant pas voulu, il partit avec lui après m'avoir dit que j'étais en danger de mort. Le fait est que j'enrageais et que je ne me souciais pas de vivre. Je ressentais aussi quelque satisfaction dans une démarche qui pouvait démontrer aux cruels qui me condamnaient à une prison pareille leur procédé inhumain. 4 heures après, j'ai entendu le bruit des verrous et j'ai vu le même médecin qui tenait la bougie lui-même, et le gardien restait dehors. J'étais dans la plus grande langueur et je jouissais d'un véritable repos. Un vrai malade est exempt du tourment de l'ennui. J'ai ressenti une vraie satisfaction en voyant le gardien rester dehors. Je ne pouvais souffrir la vue de cet homme depuis l'explication du collier de fer. Dans un petit quart d'heure, j'ai informé le médecin de tout. Il me dit que si je voulais recouvrer ma santé, il fallait éloigner de moi la tristesse. Et je lui ai répondu qu'il n'avait qu'à écrire recette pour une pareille opération et la donner au seul apothicaire qui pouvait exécuter son ordonnance. J'ai exagéré contre le cœur, ou pour mieux dire, contre le livre du cœur de Jésus et contre la cité mystique qui, dans l'ardeur de la fièvre, faisait égarer dans ses mêmes délires. Et il me plut en convenant que ces deux drogues m'avaient donné les hémorroïdes et la fièvre. Il me quitta en m'assurant qu'il ne m'abandonnerait pas, après m'avoir fait lui-même une fort longue limonade qu'il mit à côté de moi, dont il me pria de boire souvent. J'ai passé la nuit, toujours assoupi, et rêvant des extravagances mystiques. Le matin, 2 heures plus tard que d'ordinaire, je l'ai vu avec le gardien et avec un chirurgien qui me saigna d'abord du bras. Il me laissa une médecine qu'il me dit de prendre le soir, et une bouteille de bouillon fort léger. Il me dit qu'il avait obtenu la permission de faire transporter mon lit dans le galetas, où la chaleur était moindre, grâce qui positivement m'épouvanta à cause des rats que j'aborais plus que la mort. Il ne trouva pas à redire à la raison de mon refus, mais ce qui me consola et qui vraiment mit ce médecin dans toutes mes bonnes grâces, fut qu'il jeta hors du cachot les 2 mauvais livres et me donna à leur place Boès. Sans connaître cet auteur, j'en avais la plus grande idée, mais n'ai pu compenser à le lire que 2 semaines après. Pour savoir ce qu'il vaut, il faut le lire dans la situation où j'étais. Personne, ni avant ni après lui, n'est parvenu à fournir un baume pareil aux esprits affligés. Sénèque, à côté de lui, devient petit. Plusieurs clistères d'eau d'orge me guérirent en 8 jours de la fièvre et calmèrent l'autre cruelle incommodité, et 8 jours après, l'appétit revint. Au commencement de septembre, je me portais bien. Je n'endurais autre mal réel qu'une extrême chaleur, les puces et l'ennui, car je ne pouvais pas lire Boès toute la journée. Le gardien me dit que je pouvais sortir du cachot pour me laver et marcher, tandis que ces gens faisaient mon lit et balayaient à force, seul moyen de diminuer la maudite vermine qui se nourrissait de mon sang. Cette promenade de 5 minutes que je faisais tous les matins dans le galetas, et avec violence, me paraissait une grâce essentielle. C'était peut-être un ordre que le secrétaire avait donné, ou c'était un arbitre du gardien, s'il était vrai que ce ne fut pas permis. Le fait est qu'il me donna cette permission que le 1er de septembre, lorsque, m'ayant rendu compte de l'argent qui lui était resté de la dépense du mois d'août, il se trouva mon débiteur de 25 à 30 livres. Je lui ai dit qu'il n'avait qu'à employer cet argent à faire célébrer des messes, selon mon intention. Il me remercia d'un style comme si c'était lui-même le prêtre qui devait les dire. En me voyant par cet acte de dévotion gratifié de la permission de cette courte promenade, où je me voyais debout, j'ai suivi à faire la même chose tous les mois. Mais je n'ai jamais vu la moindre quittance de prêtre qui aurait pu avoir reçu mes aumônes. Tout ce que mon gardien a pu faire de moins injuste fut de s'approprier mon argent et de prier Dieu pour moi, lui-même. J'ai poursuivi dans cet état à me flatter tous les jours d'être renvoyé chez moi. Je ne me couchais jamais sans une espèce de certitude qu'on viendrait le lendemain me dire que j'étais libre. Mais lorsque, toujours frustré dans mon espoir, je réfléchissais qu'on aurait pu m'avoir fixé un terme, je décidais que ce ne pouvait pas être au-delà du dernier jour de septembre, puisque dans ce jour-là, les inquisiteurs régnants finissaient leur année. Ce qui me faisait croire que la chose serait ainsi était que je n'avais jamais vu personne, ni juge, ni secrétaire, qui fût venu pour m'examiner, pour me convaincre que j'avais mérité cette punition. Il me paraissait que cela fût indispensable et qu'on avait pu négliger ce devoir que parce que mes juges, qui devaient savoir que je l'avais manqué en rien, n'avaient par conséquent rien à me dire et qu'ainsi, en me tenant là que pour la forme et en grâce de leur réputation, ils auraient ordonné ma délivrance à la fin de leur cours. Je me sentais même en état de leur pardonner l'injure qu'ils m'avaient faite, car une fois qu'ils avaient commis la faute de me faire enfermer, ils ne me devaient pas tenir moins de 9 à 10 semaines, car autrement ils auraient donné motif au monde de juger qu'ils s'étaient trompés ou qu'ils ne m'avaient mis là qu'à cause de quelques fredaines incompétentes. J'étais donc sûr de sortir de là tout en plus tard le 1er d'octobre, à moins qu'ils ne m'oubliassent, ce que je ne pouvais pas mettre en ligne de compte, ou qu'ils ne me laissassent l'arbitre de leur successeur, qui n'aurait su que faire de moi, car il n'aurait pu leur communiquer le moindre crime de ma part. Je trouvais impossible qu'ils m'eussent condamné et écrit ma sentence, car, selon mon système, cela ne pouvait pas se faire sans me parler, sans me la communiquer. Celui de la savoir en même temps que son crime est le droit incontestable de tout criminel, auquel notre religion nous dit que Dieu même, devenu notre juge, se soumettra dans le jour novissime. Tels étaient mes raisonnements, et tels sont ceux de tous les prisonniers qui ne se sentent pas criminels. On se figure immanquable ce qu'on désire. Arioste dit « Il miser suole dar facile credenza che quel vuole » et Sénèque, dans une de ses tragédies, l'a dit encore plus élégamment « Quod nimis miseri volunt, hoc facile credunt » Mon raisonnement n'avait pas lieu vis-à-vis des règles du tribunal qui se distingue de tous les tribunaux de la terre et qui ne fait pas profession d'une certaine politesse. Quand il procède contre un délinquant, il est déjà sûr qu'il l'est. Quel besoin a-t-il donc de lui parler? Et quand il l'a condamné, quelle nécessité y a-t-il de lui donner la mauvaise nouvelle de la sentence? Son consentement n'est pas nécessaire. Il vaut mieux, dit-on, de le laisser espérer. Si l'on lui en rendit compte, il ne resterait pas pour cela en prison une seule heure de moins. Celui qui est sage ne rend compte à personne de ses affaires, et jugé et condamné sont les affaires du tribunal dont le coupable ne doit pas se mêler. Je savais en partie ces usages, mais il y a sur la terre des choses qu'on ne peut dire de bien savoir que lorsqu'on les sait par expérience. Si entre mes lecteurs il s'en trouve quelqu'un auquel ces règles paraissent injustes, je lui pardonne parce que vraiment elles n'en ont pas mal l'apparence. Mais il faut qu'il sache qu'étant d'institution, elles deviennent justes ou du moins nécessaires parce qu'un tribunal pareil ne serait subsisté que par elles. Ceux qui les tiennent en vigueur sont des sénateurs, choisis entre les plus qualifiés et reconnus pour les plus vertueux. Élus à couvrir ce poste éminent, ils doivent jurer de faire ce que les premiers instituteurs ont prescrit à ceux qu'ils y président, et ils n'y manquent pas, quoique quelquefois en soupirant. Il n'y a que 7 à 8 ans que je fus témoin des soupirs d'un d'eux, très honnête homme, dans le cas qu'il dut faire étrangler sommairement un chef boute-feu qui mettait en alarme toute la ville de Mouran. Ce sénateur, avec un cœur bon et un esprit juste, ne se croyait maître de rien. Il n'osait pas croire d'être inquisiteur d'État. Il disait « Je sers le tribunal ». Je crois qu'il devait avoir une espèce de sentiment de vénération pour la table et pour les trois fauteuils qui le forment. Un fort désagrément que j'ai eu dans l'année 1782 m'a excité à une vengeance. Je me suis satisfait sans blesser les lois, mais je me suis rendu ennemi de toute la noblesse qui a fait cause commune. Je lui ai donné volontairement un éternel adieu. Sans ce puissant motif, je n'aurais jamais eu la force de m'éloigner de ma patrie, car j'étais tant à coquiner, comme dit Montaigne, à tous les grands plaisirs que l'homme peut s'y procurer, que peu différent d'un cochon, je croupissais délicieusement. Et voilà comment les hommes font souvent du bien à quelqu'un, sans l'intention de lui en faire.